Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour.
Rappelez-vous l'émotion de Laurent Fabius, président de la COP21. C'était le 12 décembre 2015. Quant à la tribune, il annonçait après 2 semaines d'intenses tractations qu'un projet d'accord universel pour lutter contre le dérèglement climatique avait été trouvé.
Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Il confirme notre objectif central. De contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré.
Un accord historique donc, entré officiellement en vigueur vendredi dernier, moins d'un an plus tard, grâce à la ratification par des pays représentant plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, rien n'est encore joué. Il faut désormais rendre concrets ces engagements. C'est l'objectif de la COP22 qui a ouvert ses portes ce matin au Maroc, à Marrakech. De nombreuses questions restent aujourd'hui sans réponse. Comment suivre les émissions de gaz à effet de serre dans chaque pays? Comment garantir le financement des politiques climatiques des pays du Sud promis par le Nord, ou encore quels critères de compensation des pays pauvres touchés par les impacts du réchauffement climatique. Bref, la COP22 concrétisera-t-elle le succès de la COP21? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio 2 invités. Émilie Joanne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du plaidoyer international du Secours catholique et vous aviez participé aux négociations de la COP21 l'an dernier à Paris. 2e invité, Thomas Spencer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du programme climat de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Thomas Spencer, peut-être d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet sur cette COP22, une réaction à l'entrée en vigueur plus tôt que prévu, finalement, de l'accord de Paris. Est-ce que c'est pas bon signe?
C'était inattendu pour moi. Et c'est très bon signe. Il faut se rappeler que normalement, un traité international prend plusieurs ans à rentrer en vigueur. On peut prendre l'exemple du protocole de Kyoto qui a pris 8 ans à rentrer en vigueur. Là, on a pris à peu près 8 mois. C'est inédit dans l'histoire du multilatéralisme de l'environnement, mais aussi du multilatéralisme tout court. Donc, c'est un signe que l'accord est perçu comme légitime, mais aussi important, et que les politiques comme le président Obama ou son homologue chinois étaient prêts à investir du capital politique vis-à-vis de leurs partenaires pour accélérer tous les processus de ratification.
Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et en même temps, on l'a vu, l'année 2016 a été désignée l'année la plus chaude depuis qu'on mesure les températures. Est-ce que ça montre pas que l'urgence est encore plus urgente?
Oui, il y a une urgence à agir contre le changement climatique, même si c'est une lutte de longue haleine. On pourrait arrêter les émissions aujourd'hui et la température continuera à augmenter légèrement pendant plusieurs décennies. Donc l'urgence est là, c'est le moment est venu pour la mise en œuvre.
Alors Émilie Joanne, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Thomas Spencer? L'urgence est là, et est-ce que vous iriez un peu plus loin, comme vont certains, en disant que si les engagements pris à Paris sont pas concrétisés, voire revus un petit peu à la hausse, finalement l'accord de Paris sera caduque?
Ce qui est clair, c'est que oui, c'est un signal positif. La ratification, l'engagement des pays, oui, c'est un signal indéniable que les politiques sont engagées, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ces objectifs. On sait où on va avec l'accord de Paris. On entendait Fabius qui parlait des 2 degrés, des 1,5 degrés. Donc, on sait où on va, on ne sait pas maintenant comment on y va. Est-ce qu'on sait que si on ne va pas plus loin, pas au-delà des engagements qui sont aujourd'hui sur la table, donc des fameuses contribution volontaire, on est sur une voie de réchauffement à plus 3 degrés. Donc entre les objectifs et les engagements politiques et les plans d'action vraiment nationaux qui sont sur la table, il y a encore un gap, un delta à combler entre les 3 degrés et les 1,5 degrés qu'on va
atteindre. Est-ce qu'on peut quand même croire ce que dit l'Élysée, donc la présidence de la République, qui a dit les engagements pris le 12 décembre dernier 2015 au Bourget sont désormais irréversibles? Est-ce que ça au moins c'est vrai, c'est de l'acquis?
C'est de l'acquis, c'est la question du multilatéralisme et de la gouvernance du climat. On se souvient du Canada il y a quelques années qui était sorti du protocole de Kyoto. Ce qui est clair, c'est que ça, c'est vraiment la base de laquelle on part, que politiquement, ça va être très difficile d'aller en deçà, et qu'il y a en plus un mouvement de transition énergétique qui est vraiment en cours, de transition vers le solaire, vers les renouvelables, où il y a un vrai mouvement qui est parti. Donc, oui, on est en route, mais il faut faire plus, ça c'est clair.
Donc il y a un vrai mouvement qui est parti, Thomas Spencer, tout va dépendre maintenant de ce qui va se passer depuis ce matin et toute la quinzaine au Maroc.
Bah, beaucoup de nos écouteurs diraient que tout va dépendre de ce qui se passe demain aux États-Unis.
Alors c'était une de mes questions, hein. D'ailleurs on parle beaucoup de la COP en disant ils ont le regard rivé vers Washington.
Mais justement je trouve que c'est un exemple intéressant pour illustrer le propos de l'Élysée que vous avez cité. Est-ce que même dans le pire des cas, une élection de Trump, est-ce qu'on va continuer à mettre en œuvre ce qu'on a promis? Je veux dire deux choses par rapport à ça. Si Trump gagne les élections, ce qui semble le scénario le moins probable, mais c'est toujours une possibilité.
Attention, hein.
C'est clair que ça serait un pas en arrière pour la lutte contre le changement climatique, à la fois aux États-Unis, mais aussi sur le plan international, parce que l'administration américaine a été un des drivers de l'accord de Paris. Mais même dans ce cas, je pense qu'il y a suffisamment de dynamique derrière, par exemple, l'essor des énergies renouvelables ou l'action des pays émergents comme la Chine et l'Inde, que même une administration de Donald Trump se verrait un peu contrainte à faire quelque chose. Et ça, c'est...
On peut pas revenir sur un accord comme ça, juste sur un coup de tête. Les États-Unis sont engagés, c'était pas l'administration Obama, quoi.
Justement. Et c'est le rôle de l'accord de Paris, c'est-à-dire de renforcer la dynamique et de le rendre plus difficile à reverser.
Alors, Émilie Joanne, on vient d'entendre Thomas Spencer qui nous disait peut-être qu'il faut regarder du côté des États-Unis, mais de toute façon, ils sont engagés. Tout va donc se passer au Maroc pour vous et en même temps avec d'autres ONG, CARE notamment, le CCFD Terre Solidaire. Vous avez signé un communiqué dans lequel vous dites votre inquiétude. Alors, qu'est-ce que vous craignez qu'il ne se passe pas au Maroc ?
Ce qu'on craint, alors d'abord oui, la COP c'est un moment très important, il faut pas oublier qu'une COP c'est deux semaines, mais elles sont pas ex nihilo, donc oui, il y a des élections, il y a une réalité, il y a des engagements économiques, il y a des investissements industriels. Ce qu'on attend de cette COP, c'est effectivement des engagements qui donnent des signaux à ce monde réel. Il faut pas oublier cette connexion entre ce qui va se passer là dans les prochaines semaines à Marrakech et ce qui se passe après dans les ministères et sur le terrain. Mais il faut que ça envoie un signal fort aux investisseurs, au monde de la recherche et aux politiques d'une trajectoire vers plus d'action. On l'a dit, il faut aller
et
plus
alors,
loin.
Concrètement, pour que nos auditeurs se fassent une idée, pour vous, enfin, quel est l'engagement que vous attendez concret?
L'engagement concret, ce serait par exemple que les pays industrialisés nous disent voilà, quels sont les plans d'action qu'on va mettre en place dès maintenant, sans attendre 2020 par exemple, et comment on va augmenter et se préparer dès 2020 à aller au-delà des engagements pris. On a le fameux rendez-vous de 2018, il faut que ces pays soient prêts à mettre sur la table des engagements concrets et à aller plus vite en termes de renouvelables, à être plus ambitieux et plus clair dans les engagements financiers qui ont été pris en 2009, donc ça remonte à quelques années de soutien à la transition énergétique et à l'adaptation au changement climatique dans les pays les moins avancés.
Donc ça, c'est la fameuse date butoir dont on entend beaucoup parler. C'est
exactement.
C'est ça, c'est que vous voulez des engagements avec une date butoir qui serait très poche et pas encore à 5 ou 6 ans.
Exactement.
Vous êtes d'accord, Thomas Spencer? C'est ça qui est important, c'est aussi le calendrier?
Le calendrier est très important. Il faut que, d'abord, on mette en œuvre ce qu'on a promis à Paris. C'est-à-dire, je prends l'exemple de l'Union européenne. L'Union européenne a promis de réduire ses émissions de moins de 40% d'ici 2030. Et malgré un progrès significatif, il faut dire que l'Union européenne n'est pas sur la bonne voie. Il faut renforcer des politiques de régulation des véhicules, il faut renforcer des politiques de régulation des bâtiments, il faut revoir le prix du carbone à l'os. Donc il y a tout un tas de chantiers sur lesquels l'Union européenne doit travailler pour mettre en œuvre sa contribution. Ensuite, ce qui compte, c'est que dès 2020, les pays soient prêts à revoir leur contribution et à y mettre plus d'ambition. Mais pour ça, il faut commencer par agir, parce que c'est encore plus facile d'accélérer quand on est déjà en mouvement.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de comptabilité claire entre chacun ? Il y a cette question de la transparence entre les États, notamment dans les informations que les pays vont devoir fournir sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors ça veut dire quoi exactement ? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas nécessairement quand on s'y connaît pas très bien. Émilie Joanne, ça veut dire quoi ? Chacun doit calculer de la même manière les gaz à effet de serre ? C'est quoi exactement ?
Oui, c'est la manière dont vont être comptabilisées et reportées les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour qu'il y ait en fait un format commun et qu'on puisse comparer et bien comprendre et qu'il y ait une vraie transparence des efforts des pays.
Donc à la COP21, on a pris des engagements, mais on ne s'est pas mis d'accord là-dessus ?
Donc on a déjà prendre des engagements, c'était déjà le minimum vital et politiquement c'était très important. Maintenant, il faut se dire comment on va le mettre en œuvre et quelles vont être les règles de mise en application.
Et ça, est-ce qu'on a est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, Thomas Spencer, vous y croyez ? Pourquoi c'est compliqué finalement ?
C'est compliqué parce que les pays ont pris des contributions différentes. La Chine a pris une contribution de réduction d'intensité carbone de son PIB. Donc, et les États-Unis ont pris un objectif absolu qui couvre toute leur économie par rapport à l'année 2005. Donc, il y a la complexité du monde dans lequel on vit qui fait que c'est difficile pour des pays aussi différents que le Tchad, la Chine et les États-Unis de s'engager sur la même chose. Donc, il nous faut un cadre souple qui permet à chaque pays de rendre compte à la communauté internationale de ce qu'il est en train de faire de façon transparente et cohérente. Après, il y a des intérêts politiques aussi. C'est pas gagné que la Chine, par exemple, veut être transparente sur tout. On émet beaucoup de doutes quant à ces données sur...
Et ce ne seraient pas les seules données sur lesquelles on peut émettre des doutes quant aux chiffres chinois. Émilie Joanne, il y a aussi quelque chose qu'on entend très souvent, c'est pour vous notamment la nécessité d'agir en matière agricole. Alors là aussi, quelles sont les attentes que vous avez sur cette COP22 ?
La COP22, c'est vrai que c'est la COP, on parle beaucoup de la COP, est-ce que ça va être la COP de l'action ? Pour nous, c'est aussi la COP de la cohérence, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui peuvent paraître connexes, mais la sécurité alimentaire est pour nous cruciale et il faut que les politiques climatiques soient cohérentes avec le maintien de la sécurité alimentaire des populations. Et on voit que c'est un sujet qui est très difficile, qui est clivant, parce que ça dépend du modèle agricole qu'on promeut. Donc nous, on attend vraiment qu'il y ait un soutien à l'agriculture paysanne, à l'agroécologie, qui sont des modèles qui ont des vrais potentiels à la fois de garantir la sécurité alimentaire des populations et d'être sobre en carbone. Donc il s'agit aussi de savoir quelles sont les solutions, les bonnes solutions qui vont être promues. Et pour nous, des solutions cohérentes entre la lutte contre les changements climatiques et la lutte contre la pauvreté, c'est un des enjeux aussi de ces actions à venir.
Et là aussi, il y a des enjeux politiques qui sont intéressants. On se bat, on voit que c'est un sujet clivant, Thomas Spencer.
Oui, et l'autre enjeu dont on parle, c'est aussi le commerce international. La raison pour laquelle pas mal de pays sont réticents de parler vraiment de changer des modèles agricoles, c'est parce que l'agriculture est un secteur international et des pays comme l'Argentine ou l'Australie craignent qu'une action dans le secteur agricole mette en quelque sorte à mal leur compétitivité internationale. Donc c'est là où on a besoin aussi des solutions coordonnées qui donnent la confiance à tout le monde, que tout le monde voit dans la bonne direction. Et c'est pour ça que cet enjeu de transparence est tellement important. C'est pour ça qu'on va en parler à Marrakech.
Émilie Joanne, on entend aussi beaucoup, et c'est ce qu'a dit notamment Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, qu'il faut que ce soit la COP de l'Afrique. Alors j'imagine que c'est lié aussi aux enjeux agricoles dont on vient de parler. Ça veut dire quoi pour vous une COP de l'Afrique réussie ?
Une COP de l'Afrique réussie, ça peut être une COP où on réaffirme le soutien à l'adaptation. Typiquement, l'adaptation est sous-financée. C'est à peu près 20% des financements climat, alors que...
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer adaptation pour que ce soit bien clair pour tout le monde?
Adaptation, c'est comment on aide les pays impactés par les changements climatiques à faire face à ces impacts dans différents secteurs. Ça peut être l'agriculture, mais ça peut être beaucoup d'autres secteurs. Et typiquement, c'est effectivement un secteur qui est sous-financé et où il y a vraiment besoin d'un soutien public. Et c'est une demande presque ancestrale, j'ai envie de dire maintenant, de la société civile et des pays du Sud, d'avoir une allocation des financements à la fois sur l'adaptation et l'atténuation. Et là, on a vraiment besoin d'un engagement fort. Et ça pourrait être un signal très fort qui donnerait une confiance aux pays d'Afrique et au-delà.
Alors, il y a la montée en puissance de l'aide financière aux pays au développement. C'est ça aussi, j'imagine. On avait promis 100 milliards d'ici 2020. On est à 67, je crois, qui sont financés aujourd'hui. Thomas Spencer, ça, c'est l'une des choses sur lesquelles il va falloir se battre là pendant cette COP.
Oui, justement, pas mal d'acteurs, notamment des pays en développement, mais aussi des ONG, mettraient en question le chiffre que vous avez cité, les 67 milliards de dollars, en disant, bah là, on comptabilise des choses, des projets qui sont pas vraiment bénéfiques pour le climat, ou qui vont en soutien des pays qui n'en ont pas besoin. Et c'est là encore ce besoin de transparence. Un des enjeux à la COP22, ça va être de négocier un cadre de transparence en ce qui concerne les flux financiers pour qu'on a une base commune et crédible, parce que aujourd'hui les pays reportent ce qu'ils donnent en soutien financier à leur façon sans cette base commune. Mais j'ai aussi envie de dire le sujet peut-être le plus important au-delà des chiffres, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et il faut dire que même en Afrique, où les flux financiers venant des pays développés sont très importants, c'est vraiment peu d'argent par rapport aux flux d'investissement global qui se font dans les économies, dans les infrastructures, dans la...
Mais ça, vous parlez presque d'une révolution copernicienne à mener, parce que ce sont des années et des années de flux financiers qu'il faudrait changer.
Oui. Non. Et c'est l'objectif que devant lequel la Cour de Paris nous met. Parce qu'en fait, pour cette transition, cette grande transition vers des économies sobres en carbone et résilientes, ce qui manque, c'est pas vraiment de l'argent en plus, mais c'est qu'on arrête d'investir dans les énergies fossiles, dans des projets de production d'énergie fossile ou des équipements de consommation à base d'énergie fossile, et qu'on dirige cet argent vers des technologies propres, l'efficacité énergétique. Et l'accord de Paris contient un objectif de redirection des investissements. Donc on a un double enjeu, en fait. On a un enjeu de solidarité vis-à-vis des pays en développement. C'est les 100 milliards, mais on a aussi un enjeu de transformation de la façon...
Il y a du quantitatif et du qualitatif, finalement.
Absolument.
Vous êtes d'accord là-dessus, Émilie Johanne?
Oui, on voit que il y a de l'argent aujourd'hui, mais il y en a 5 fois plus qui vont aux subventions aux énergies fossiles qu'aux fameux 100 milliards. Donc il s'agit aussi de voir comment on change, et c'est vrai que c'est une révolution, on change l'économie, on change nos manières de produire, de consommer, de voyager, de se transporter, d'habiter, et il faut effectivement que ça aille vite, parce que à la fois c'est le temps court politique des quelques semaines de la COP, et c'est le temps long de l'investissement et d'un changement de société.
Alors j'ai juste une dernière question, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la lutte contre le réchauffement climatique est lancée quand de grands émetteurs comme la Russie n'ont pas encore ratifié, n'ont même pas encore lancé le processus, à la différence, je crois, du Japon et de l'Australie, Thomas Spencer?
Bon, il faudrait un moment que la Russie ratifie, mais là encore, c'est vraiment exceptionnel la vitesse avec laquelle l'accord est rentré en vigueur. Donc moi, je regarderai...
Ça vous inquiète pas particulièrement, la Russie?
La Russie, non. Je regarderai plutôt les dynamiques dans l'économie réelle, les investissements dans les énergies renouvelables, les politiques mises en place par la Chine, les résultats de l'élection américaine aussi, pour y revenir. Mais qu'un pays prend un peu plus de temps à ratifier, ça ne m'inquiète pas du tout.
Bon, très bien. Et j'en profite pour rappeler que demain, évidemment, nuit spéciale élection américaine sur RFI. Merci à vous deux. Émilie Johanne, directrice du plaidoyer international de Secours catholique. Thomas Spencer, directeur du programme Climat à l'IDRI. Merci à Florence Ponce et à Fanny Monta.